franceinter.fr.
Bonjour Hélène Chevalier.
On parle d'une boisson qui fonctionne bien pendant 7 euros, c'est ça?
La bière, c'est exactement cela. Mais sous un angle particulier, il y a 30 ans, Hélène, il y avait plus que 30 brasseries en France. Il y en a aujourd'hui plus de 800. Le phénomène des micro-brasseries ne cesse de prendre de l'ampleur. Production en hausse de 30 à 50% depuis 2 ans, par exemple. Charlie Leroux a ouvert la sienne de micro-brasserie à Blêle, en Auvergne, pour le plaisir notamment d'entendre fermenter ce drôle de mélange qui fait blou-blou.
Là, cette bière a été brassée hier. Et là, on peut entendre ce glou-glou qui est incessant. Là, elle est en pleine activité, celle-ci. Il y a beaucoup de vie dans cette cuve.
Ça vous fait sourire?
C'est toujours une satisfaction de voir que ça fonctionne bien. Quand une fermentation met longtemps... Il y a toujours de l'inquiétude, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui ne va pas?
Bonjour à tous, c'est Un Jour en France jusqu'à 11h. C'est une histoire qui raconte l'envie de consommer, de produire, de goûter autrement. Venu des États-Unis et d'Angleterre, le phénomène des micro-brasseries a pris son essor en France. Vente directe, circuit court, diversité des goûts, pistes sérieuses pour redonner de la vie à certains villages qui avaient abandonné la pratique depuis longtemps. Les micro-brasseries sont dans cette ère du temps, écolo et locavore. Alors est-ce un feu de paille, un feu de houblon ou un phénomène durable? Est-ce que la qualité est au rendez-vous? Reportage de Bar McCoy entre Montreuil et l'Auvergne. Et en studio, Elisabeth Pierre, auteur d'une biérographie et du guide Achète de la bière. Et Jérôme Martinez, fondateur de la brasserie La Montreuilloise à Montreuil. Et nous attendons vos questions et interventions. Produire, consommer différemment avec Hervé Pochon aussi. Un temps de Pochon auprès de dirigeants et salariés de SCOP, l'économie coopérative, à développer ou pas, ça dépasse les clivages politiques.
On a vu dans l'histoire passée à l'Assemblée nationale par exemple, quand il y avait des attaques sur certains principes coopératifs, le clivage n'est pas gauche-droite. Le clivage, il est participation ou pas participation.
Ouais. Et en fait, quand vous parlez de participation, c'est le principe de la SCOP.
C'est la capacité qu'on donne à chacun de pouvoir s'exprimer.
Et de pouvoir être entendu, voilà.
Un jour en France, Anne-Sophie Ladonne, Chantal Le Montagnier, Anne-Cécile Perrin et Clément Rouget, toute l'équipe vous souhaite la bienvenue.
France Inter, Un jour en France, Bruno Duvic.
Bonjour Elisabeth Pierre.
Bonjour.
Auteur du guide Achète des bières et co-auteur d'un livre intitulé Biérographie qui explique absolument tout sur ce breuvage avec une série de graphismes, d'infographies, tout cela est très très attractif. Un point vocabulaire d'abord, je dois vous appeler madame la zytologue, c'est ça?
Oui, vous pouvez.
Ça fait un peu spécialiste d'insectes. Zytologue, ça vient d'où?
Le zytos, Z-Y-T-H-O-S, c'est l'orge, c'est le mot grec qui signifie orge. Et l'orge, c'est la base de la bière, c'est la céréale reine, comme on dit, même si on peut faire de la bière partout, sur toute la planète, avec différentes céréales. Ouais. Mais j'ai un amour particulier pour l'orge, d'où mon surnom, la fille de l'orge aussi.
D'accord. Zytologue, donc comment vous expliquez ce phénomène, ce développement des micro-brasseries en France?
Alors c'est un phénomène qui est effectivement assez perçu comme récent, mais qui remonte à peu près il y a 30 ans, puisqu'en 85 c'était la première petite brasserie en Bretagne qui s'est ouverte, et vraiment dans le sillage de ce qui se passait en Angleterre, et surtout en Amérique du Nord, comme vous le disiez. Ouais. Et au fil des années, sur ces 20 dernières années, ce mouvement s'est amplifié. Ouais. Ce renouveau, je l'explique avant tout par une recherche de nouveaux goûts. Et ces brasseurs donc qui fleurissent maintenant ont une liberté totale. Donc on est complètement dans la créativité, on est complètement dans l'ouverture des recettes. On n'a pas de contraintes. On peut faire des bières absolument avec toutes sortes de céréales, toutes sortes de houblons. Donc on a même en utilisant que des céréales et que des houblons sans aller chercher d'autres ingrédients, on a des possibilités de recettes qui sont totalement infinies. Charlie Leroux tout à l'heure dans le reportage, il parlait
du
côté vivant. Ouais. Pour moi c'est la vie quoi. C'est vraiment, ça n'arrête jamais de se renouveler, de se recréer. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ce renouveau. Alors, le public, il est très intéressé par ça parce qu'il recherche ça. Il recherche aussi la proximité. Et donc, ces brasseries locales qui sont partout en France, par exemple, on est à peu près, on frôle les 900 hein, à l'heure d'aujourd'hui. On est sur des personnes, des brasseurs et des brasseuses qu'on peut rencontrer, qu'on peut aller voir tous les jours. Les brasseries sont ouvertes absolument pratiquement tous les jours. Si c'est pas le cas tous les jours, c'est en tout cas le week-end. Oui. Donc, on est vraiment dans une relation très proche où on peut rencontrer ces producteurs locaux. On peut déguster avec eux, on peut assister au brassage, on peut
même prendre des stages, des cours, on le verra.
Et on peut évidemment prendre des stages. Donc c'est tout un ensemble de raisons qui expliquent ce renouveau. C'est tout un ensemble de raisons.
Et on va détailler tout cela. Bonjour Jérôme Martinez.
Bonjour.
Alors ce changement du paysage brassicole, vous en êtes. Vous avez fondé en 2014 la microbrasserie La Montreuilloise à Montreuil, comme son nom l'indique. Vous la tenez avec François Cariou. Alors là aussi, vocabulaire microbrasserie, ça veut dire quoi?
Ça veut pas dire grand chose en réalité. Non, c'est vrai que c'est un terme très général pour on va dire se distinguer de ce qui fait la brasserie industrielle traditionnelle, enfin les grosses brasseries qu'on connaît à peu près tous. Mais le terme micro veut pas dire la même chose qu'on soit au Québec, en France ou parce que les tailles sont pas du tout les mêmes.
Bien sûr.
Disons que moi je pense qu'on peut parler plus de brasseries indépendantes, c'est-à-dire de petites brasseries essentiellement, qui sont indépendantes de tous les groupes industriels qui contrôlent quand même beaucoup le marché de la bière, parce que, bon, il faut quand même le dire, il y a trois groupes dans le monde qui contrôlent 80 ou 90% des marques. Donc à côté de ça, il y a un certain nombre de micro-brasseries qui se créent, il y en a beaucoup en France, mais il y en a plein en Europe, et on va dire qu'elles se sont distinguées un petit peu de tous ces gros mastodontes de la bière en essayant de créer des petites unités locales.
Alors, vous avez fondé la Montreuilloise, je le disais, en 2014. Avant, vous étiez secrétaire général de la CIMAD, l'association qui vient en aide aux sans-papiers. Pourquoi vous êtes dit je vais me lancer là-dedans?
Alors moi ça a été le hasard d'une rencontre. Ouais. Je sais, en ayant beaucoup discuté avec beaucoup de brasseurs, que c'est parfois comme ça qu'on arrive à ce métier-là. Parce que c'est vrai que, comme disait Elisabeth, on part de 30 brasseries, ajoutez-vous tout à l'heure, de 30 à 800 brasseries. Donc, il n'y a évidemment pas du tout de tradition, de transmission familiale, ou très peu dans ce milieu-là. Moi, ça a été la rencontre avec un brasseur à Montreuil qui avait créé des petits ateliers de brassage, d'initiation. Et puis un jour, j'ai passé la porte de ces ateliers, j'en ai fait un. Et puis, de fil en aiguille, on était tous les deux impliqués dans la vie locale de Montreuil. Et il m'a proposé l'opportunité de reprendre cette brasserie et de créer quelque chose à partir de ça. Moi, j'étais dans une période de ma vie, comme il arrive parfois, certains gens qui nous écoutent, qui à 40 ans se disent « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Et voilà, je me suis dit en quelques jours « pourquoi pas ?» Ça me semble très bien, j'avais une attirance vers ce produit, sur ce qui était en train de se faire, et sur effectivement la créativité qui était possible à travers la création d'une microbrasserie.
Et vous en vivez, ce qui n'est pas un détail, vous en vivez ?
Oui, j'en vis aujourd'hui. Alors nous, on a, chaque brasserie a un peu sa manière de fonctionner. Nous, on a effectivement une production locale et bio de bière. Et à côté de ça, on a les ateliers d'initiation qui sont aussi une des activités importantes de notre brasserie.
Si vous souhaitez participer à cette émission, peut-être êtes-vous prêt à ouvrir votre micro-brasserie, vous avez envie de goûter toutes ces nouvelles bières, intervenez 01 45 24 7000. Le courriel c'est unjourenfrance@radiofrance.com et sur Twitter le mot-clé c'est Jour en France. À 10h15 sur France Inter, voici Randy Newman, I Love LA.
Hate New York City. It's cold and it's damp, and all the people dressed like monkeys. Let's leave Chicago to the Eskimos. That town's a little bit too rugged for you and me. Everybody, very happy, 'cause the sun is shining.
come over there, man, he's down on his knees. Look at these women, ain't nothing like them nowhere. Century Boulevard,
we love it.
Century Boulevard,
we love it.
Santa Monica Boulevard,
we love it.
Randy Newman sur France Inter, la programmation musicale d'Un jour en France est signée Muriel Pérez, 10h18.
Allô, allô.
Un jour en France.
Bonjour, monsieur.
Bruno Duvic.
Bonjour, monsieur.
Sur France Inter.
Le développement des micro-brasseries en France, des brasseries indépendantes, c'est notre sujet du jour. Bonjour, Ben McCoy.
Bonjour.
Vous êtes allé à la rencontre de brasseurs indépendants. Première étape en Auvergne.
Alors, la brasserie de Charlie Leroux se situe tout au bout du village de Blesle. Blesle, c'est en Haute-Loire, 600 âmes réparties en plusieurs petits bourgs. La brasserie, elle est située dans une ancienne usine de fabrication de meubles, à quelques pas d'un cours d'eau qui s'appelle la Voireuse et qui fait la légende de cette bière. Parfois, la pièce qui jouxte les cuves de bière en fermentation se transforme en ciné-club, d'autres fois en salle d'expo ou en atelier d'écriture. C'est une brasserie pas comme les autres qui a contribué à dynamiser le village.
Et Charlie Leroux raconte son histoire, installée évidemment à côté des cuves.
Et là, on entend glou-glou.
J'ai une cuve qui est en fin de fermentation, donc un glou-glou assez espacé, c'est celui qu'on entend le plus. Et puis, il y en a une autre qui a été brassée hier et là, qui est en pleine activité. Il y a l'acte de brasser qui dépend complètement, en grande partie, de notre travail. Puis après, ce qui se passe dans la cuve, c'est le travail des levures. Et là, il y a plein de choses qui nous échappent. Il y a un petit côté mystérieux, un côté magique. Je fais quelques prélèvements, c'est-à-dire je vois un petit peu comment ça avance. Mais le résultat final, on l'a que plusieurs jours, plusieurs semaines après. Donc, c'est toujours un moment excitant. Alors moi, je suis originaire de Haute-Normandie. J'ai vécu pas mal à Rouen, donc en milieu complètement urbain. Si je suis venu ici, c'est pour la qualité de vie qu'on a ici. C'est vraiment un chouette lieu où il fait bon vivre. Et l'idée de faire de la bière ici est venue ensuite. Il se trouve qu'on a ici une eau de très bonne qualité. Et ça, c'est un atout pour faire de la bière. Alors, quand j'ai démarré l'activité, au départ, les anciens ont commencé par me dire « Mais pourquoi tu vas faire de la bière ici ? On est dans un pays de vin. La bière, c'est une boisson qui n'est pas de chez nous. » Et il se trouve que j'ai trouvé quelques bouteilles dans des caves, dans des vides-greniers, des bières marquées brasserie de Brioude. J'ai fait quelques recherches aux archives départementales qui m'ont montré qu'on a une histoire brassicole ici en Haute-Loire. Donc quand j'ai pu justifier de l'intérêt de monter cette brasserie ici, le regard des gens a nettement changé. Ça fait ressurgir tout un tas d'histoires. Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont amené des bouteilles, qui m'ont raconté des histoires, des anciens qui faisaient leur bière autrefois ici en utilisant du houblon sauvage qui pousse. Puis une petite fierté quand même de la part des anciens à dire « bah voilà, on a cette histoire-là aussi Blesle regorge de richesses, voilà. »
Avant de poursuivre la visite chez Charlie Leroux, Elisabeth Pierre, ce que ça souligne, c'est qu'au fond, ce phénomène, c'est aussi un retour aux sources. Guide des bières, il y avait au début du XXe siècle 3500 brasseries en France.
Bien sûr. Oui, il y en avait même bien plus encore avant, mais 3500 brasseries, ça veut dire qu'il y en avait partout, et c'était surtout, on va dire, des brasseries campagnardes, des fermes brasseries notamment, où le fermier était également brasseur, et l'hiver il brassait, et l'été il était au champ. Et on retrouve effectivement ce phénomène avec les agriculteurs qui développent, qui diversifient leur production de céréales, par exemple, avec une création de brasserie ou de malterie à l'intérieur de leur ferme. Donc c'est un retour aux sources. Partout, en fait, dans toutes les régions, dans tous les départements, on retrouve des traces de brasseries qui avaient existé. Il y en avait absolument partout.
Jérôme Martinez, une question très concrète. Thibault qui nous dit « J'envisage l'ouverture d'une microbrasserie. J'hésite entre prendre des locaux dans mon domicile ou séparer. Que dit la loi à propos de l'installation à domicile ou pas de la microbrasserie. Est-ce que vous avez une réponse à ça ?
Soit séparé.
Séparé.
Oui, tout simplement parce que quand on fabrique de la bière et qu'on la vend, on est soumis à des taxes spécifiques, un droit d'assise qu'on paye aux douanes chaque mois de manière très rigoureuse. Et légalement, il faut que la douane puisse accéder aux locaux pour pouvoir contrôler qu'est-ce qui est fabriqué dans ce local-là. Donc en fait, ça doit être dans un local qui est distinct du logement, puisqu'en fait, la douane ne peut pas rentrer chez vous comme ça du jour au lendemain.
Bon,
Je sais qu'il y a plusieurs collègues brasseurs qui m'ont déjà posé la question, parce que la question parfois se pose, mais il faut que ce soit distinct.
Bon, voilà, question claire, réponse claire. On vous retrouve Bar McCoy, comme souvent, on est donc chez Charlie Leroux, en Auvergne, comme souvent dans les micro-brasseries. Voilà, celle-ci, c'est l'occasion d'échange entre habitants et brasseurs. Les portes sont grandes ouvertes. Hein.
Effectivement, Charlie Leroux fait souvent goûter sa bière pour la faire évoluer au contact de ceux qui l'apprécient. Il reçoit entre 300 et 400 visiteurs par an. 400, c'est presque autant que le nombre d'habitants du village. Et ce jour-là, deux amatrices de bière et habituées de la brasserie sont venues. C'est Mireille Dwix, productrice de fromage à Blêle, et Anne Maillot, qui travaille pour un festival de musique. Elles sont passées goûter une nouvelle création, comité de dégustation improvisé.
Ça, c'est la bière anniversaire pour les 7 ans de la brasserie. Ce sera la 7.
La 7, voilà. Ah, ben, je n'ai pas goûté la 7.
Elle est bonne ?
Oui, très. Moi, j'aime bien les bières qui sont bien houblonnées.
Oui, la 7, parce qu'il y a 7 kilos de houblon dedans.
Ah, d'accord.
Vous voulez goûter autre chose ?
Merci.
Vous les connaissez bien, les bières de Charlie Leroux ?
Ah oui, on les connaît bien. Bah, l'arrivée de Charlie dans le village de Blêle, ça a été une aubaine, puisque bah, déjà, c'est une activité qui s'est créée à Blêle. C'est un petit village où il reste peu d'activités économiques.
Ça attise la curiosité tout de suite. Une brasserie, c'est pas forcément banal dans tous les villages.
Ça contribue à faire connaître Blêle, parce que bah, il participe à des tas d'événements. Et c'est un lieu qui est très chouette, où il se passe plein de choses. C'est des soirées qui sont... On se retrouve entre copains, enfin, c'est... permet de passer un bon moment.
En veux-tu un peu ? Et je ne me voyais pas avoir juste un lieu de production. Dès le départ, j'avais envie que ce lieu soit ouvert sur l'extérieur, donc d'abord faire visiter, pouvoir expliquer comment on fait la bière. Y associer des activités culturelles, c'était une évidence qui a été rendue possible grâce au lieu que j'ai trouvé. Ça représente aussi le lien social. Le bistrot dans lequel on a le bar, où on... même si souvent en France c'est parfois vu d'un mauvais œil, mais en Angleterre c'est complètement différent. Le pub, c'est un lieu de mixité sociale étonnant, épatant. Pour moi, la bière est vraiment associée au partage, à la convivialité, aux échanges, et je trouve que bah, c'est important ça.
À propos de ces lieux, Elisabeth Pierre, vous parlez volontiers de taverne.
Oui, effectivement. beaucoup de brasseurs installés en campagne, ouais. Ou même d'ailleurs en milieu urbain, ouais. ont envie effectivement d'ouvrir leur espace de production à des lieux de rencontre, comme on vient de l'entendre. Et on a donc des tavernes, par exemple en Ardèche, dans le Tarn, dans différents lieux dans toute la France. Les brasseurs, donc... ouvrent là leur espace, ouais. Et en font vraiment un espace de vie, en fait. Et un espace où on peut, où il se passe des échanges,
des animations,
ouais. Très diverses, hein, d'ailleurs, ouais. mais également des dégustations, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est vraiment très intéressant de pouvoir, associer la bière, donc les bières des producteurs à des, par exemple, des fromages, à des produits locaux, toujours. Et ça se développe énormément. Donc, on appelle certains brasseurs, beaucoup de brasseurs appellent effectivement ce lieu des tavernes, tout à fait.
Comment ça se passe de ce point de vue, voilà, ce mélange, cette insertion dans la ville, pour employer un terme un peu pédant, Jérôme Martinez, pour vous, ville qui est Montreuil, autrefois dit Montreuil sous bois, je le précise, parce que il y a une question au standard, est-ce que c'est Montreuil sur mer ou Montreuil sous bois, c'est Montreuil Seine-Saint-Denis qu'on appelait autrefois Montreuil sous bois. Comment ça, voilà, l'insertion dans la ville?
Ah, pour moi, c'était une volonté dès le départ. La brasserie ouais. s'appelle la Montreuilloise, c'est pas ouais. par hasard. Nous, on est dans le haut Montreuil. Pour ceux qui connaissent Montreuil, il y a deux parties. Il y a une partie beaucoup plus populaire et beaucoup plus sauvage, parce qu'il y a beaucoup de jardins. Je suis ouais. dans le quartier des Murs à Pêche. Et donc, moi, dès le départ, le choix, c'était d'ouvrir la brasserie. C'était de dire, voilà, je suis dans une ville, je suis pas n'importe quelle ville. Montreuil, en Seine-Saint-Denis, c'est une brasserie, donc c'est quand même quelque chose un peu étonnant pour une ville comme celle-là. J'ai plein de gens qui vont venir me voir, et c'était le cas, et j'ai envie de travailler avec le milieu associatif, le milieu culturel qui est très riche dans cette ville, ouais. pour pouvoir leur produire. Et moi j'ai très vite vu l'intérêt des gens, c'est-à-dire que habitants de Montreuil venaient me voir en disant ah c'est super qu'il y ait une bière locale, une forme de fierté aussi souvent parfois avoir sa brasserie dans sa ville. Et à pouvoir passer la porte. Moi, je tiens beaucoup à ça, à ce que des gens puissent rentrer, dire ah ben c'est là que c'est produit, c'est vous qui fabriquez la bière, Ce qui change quand même beaucoup, hein, parce que c'est vrai que bah, voilà, on a un peu perdu l'habitude de comprendre que derrière la bière, il y avait des producteurs. Et là, ouais, maintenant, avec les microbrasseries, on revient derrière tout ça. Donc, je serais plutôt très, très bien, moi.
Allez, dernier volet de ce reportage en Auvergne, Bar McCoy. On a parlé de la consommation, mais la matière première, Charlie Leroux, il la trouve où? C'est la question. Il a planté du houblon, notamment.
Alors, c'est une tentative, hein, encore à l'état expérimental, mais Charlie Leroux et son associé Mario ont fait pousser du houblon alsacien, entre autres, dans un champ, dans une vallée à quelques kilomètres de Blêle. De loin, ça ressemble à des totems, de grands poteaux de 10 mètres alignés sur plusieurs rangées, car le houblon, c'est une sorte de liane grimpante.
Alors là, on arrive dans nos essais de plantation de houblon. Pour l'instant, on a une quarantaine de pieds. Le rythme de croissance des brasseries artisanales, en tout cas, est beaucoup plus important que la production de houblon. Et puis pour augmenter la production de houblon, ça prend beaucoup plus de temps que pour monter une brasserie. Un pied de houblon, il va mettre 3 ans à atteindre sa maturité, à donner pleinement. Donc c'est long, 3 ans. Et bien du coup, on a des difficultés. Moi, cette année, par exemple, j'ai pas pu être fourni par les producteurs alsaciens. Donc il a fallu que je trouve d'autres variétés. Il y a une bière que je ne peux plus faire. Ça conduit aussi du coup à s'éloigner, à aller chercher plus loin du houblon, en Angleterre, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Moi, je trouve dommage de ne pas travailler avec ce qu'on a près de chez nous.
Alors, c'est formidable de vouloir être local, mais vous fournissez où en houblon, en orge et le maltage, comment vous faites? Est-ce qu'on peut faire tout ça en France et encore plus localement?
En France, oui. Il y a des malteries importantes, bon, proches, en très grande région parisienne, hein, parce que la Beauce, le Vexin, c'est des grosses productions d'orge brassicole. Il y a aussi de plus en plus des micro-malteries qui se créent en France, et ça, c'est intéressant, parce que c'est un peu la suite, notamment par rapport à ce que disait Charlie Leroux, du fait que les brasseurs ont envie de se rapprocher les matières premières qu'ils utilisent. Il y a le houblon, il y a le malt, ouais. Effectivement, il y a des micro-malteries. Nous, on va finalement pas très loin, parce que la Beauce-le-Vexin, c'est pas si loin de Paris. Pour le houblon, on va le chercher un peu plus loin, parce qu'on est en bio en plus, donc on a quelques contraintes supplémentaires. Et nous aussi, on est en train de travailler à l'implantation d'une houblonnière, on espère, l'année prochaine, dans notre quartier. Donc voilà,
mais ça c'est... La houblonnière, elle suffirait pas à votre production. Je crois que c'est 2000 litres par mois, hein, c'est ça à peu près?
Oui, nous c'est une petite production, mais c'est vrai que même pour ça, il faudrait quand même qu'on ait une production de houblon assez importante. Mais l'idée, c'est un, avoir un aspect un peu pédagogique de tout ça, et puis aussi peut-être se dire que une ou deux fois par an, on va faire une bière avec les houblons de Montreuil, ce qui serait déjà plutôt assez sympa quoi, pour nous.
Alors, il y a la question de la matière première, puis il y a la question de la distribution. Et à ce sujet, nous appelle Virginie. Bonjour Virginie.
Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Voilà, je vous appelle.
Ben, vous ne nous dérangez pas du tout, au contraire.
Je vous appelle parce que je suis en création donc, d'un site internet qui s'appelle Bière qui coule, Namaste-Pamousse. qui sera en ligne la semaine prochaine et qui regroupe les micro-brasseries bretonnes, parce qu'en Bretagne, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se développent. Je vais chercher directement les bières chez les tout petits brasseurs. Alors, il y en a, c'est dans leur garage, il y en a, c'est au fond dans des granges ou dans des cabanons au fond du jardin. Et c'est vrai que c'est très sympathique parce que, à savoir quand même que le brasseur de petite brasserie, il distribue qu'aux alentours des 20 km autour de lui. Donc souvent dans des coopératives bio ou dans des magasins, des petites épiceries ou des choses comme ça. Et amatrice de bière comme je l'étais et comme on l'est avec mon mari, on s'est retrouvés à vouloir étendre notre panel, et puis on s'est dit que d'autres personnes pouvaient être intéressées. Alors on a créé ce site et qui permet à toute la France entière en fait de pouvoir retrouver les bières bretonnes de petits producteurs qui adorent ce qu'ils font, et c'est des véritables passionnés. Hier encore j'étais dans les Côtes d'Armor et on passe des heures avec eux à parler, à ce qu'ils nous parlent de leur passion, de leur histoire.
Et par Internet, comme ça, la distribution peut être plus large. Je vais donner l'adresse du site carrément, Virginie. www.vente-bière-artisanale.bzh pour la Bretagne. Voilà, ça pose la question, Elisabeth Pierre, de la distribution. Tous ces micro-brasseurs, où est-ce qu'ils vendent?
Alors une grande majorité, tout dépend de leur production, une grande majorité va effectivement vendre dans un rayon de entre 10 et 50 km, voire 100 km à la ronde. Ouais. Donc on est vraiment sur une production locale, petit volume égale production locale. Sur ce type de brasseur, on est sur des brasseurs qui ont une volonté de rester en local et de s'ancrer en local. Ouais. Je pense notamment à Romain Biscan dans le Gers, avec la brasserie de l'Excuse. Lui, son intérêt et son objectif, c'est de qu'on trouve sa bière, l'Excuse, partout, partout, partout dans le Gers.
D'accord.
Voilà.
Il s'en fiche de vendre à Lille, à Rennes
ou
à Bordeaux.
Voilà. Il, bien sûr que ça l'intéresse aussi qu'on trouve sa bière ailleurs. Ouais. Mais avant tout, un brasseur local, ce qu'il veut, c'est être... il est fier effectivement de son ancrage, de son territoire. Donc, ce qui l'intéresse, c'est d'être d'abord avant tout en local. Et dans, partout en local, dans les bistrots, dans les cafés, dans les épiceries fines, dans les magasins de producteurs, dans les grandes surfaces, évidemment.
Ouais.
Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les brasseries un peu plus importantes, comme les brasseries régionales, du coup. Elles vont, elles, avoir une surface de distribution un peu plus importante, un peu plus large. Et donc, elles ont notamment des distributeurs. Il y a donc un certain nombre de distributeurs qui se créent maintenant en France et qui se spécialisent en bière locale. Puis le troisième phénomène, c'est que les distributeurs et les acteurs historiques sur le terrain commencent à s'ouvrir aussi, bien sûr, à la distribution de ces bières locales. Alors, c'est pour autant des bières régionales, des brasseries un peu plus importantes qu'ils vont distribuer, forcément, puisque eux, ils ont besoin de volume. Mais on reste toujours, même en brasserie régionale, on reste sur des volumes qui sont très inférieurs à, par exemple, on va dire 20 000 hectolitres.
Hein. Ouais.
Donc, ça reste des brasseries locales, toujours.
J'ai une question sur Twitter, sur les box. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, la distribution via les box? Expliquez-moi.
Oui, alors c'est intéressant parce qu'en fait, ça répond peut-être aussi à ce problème de disponibilité. Juste un aparté avant de vous répondre. Dans mes ateliers, par exemple, souvent on me dit « Ah, mais oui, mais où est-ce que je peux trouver ces bières que vous nous faites découvrir ?» Parce que c'est ça.
Bah, bien sûr.
Voilà. Donc, la disponibilité des bières, elle n'est pas forcément évidente, même si ça s'améliore avec le phénomène des cavistes. Alors, les box, c'est un autre phénomène où là, on reçoit à domicile des sélections qui sont faites par des opérateurs qui se créent de façon régulière.
Ouais.
Je pense notamment à un opérateur récent. Ce sont deux jeunes qui ont quitté en Bretagne leur job de catsup et qui ont envie de vivre justement de leur passion. Leur site internet est spécialisé, leur box est spécialisé dans les bières locales, françaises, uniquement. Et donc, quand on s'abonne, on peut choisir, c'est le principe des box, on choisit des sélections de thèmes. C'est le coin mousse, en fait, et c'est la box du coin mousse. Il y en a beaucoup comme ça.
Et ça passe par Internet, là aussi.
Ça passe par Internet et ça passe par aussi une présélection, en fait. Le consommateur n'a pas besoin, on lui présente des nouveautés, c'est ça l'intérêt aussi.
Vous vendez où, Jérôme Martinez?
On fait moins loin, à peu près 5 km à la ronde, on est à Montreuil quand même, c'est un peu différent, c'est un peu plus facile. Nous, on est principalement diffusés dans des réseaux Biocoop.
Vous refusez les grandes surfaces, par exemple?
Oui, en fait, nous, alors, on a un point commun avec Charlie Leroux, c'est qu'on est affiliés tous les deux à un mouvement qui s'appelle Nature et Progrès, qui est la plus vieille fédération de promotion de l'agriculture biologique en France, qui a plus d'un demi-siècle. On est 25 brasseries en France affiliées à ce mouvement, ce qui inclut évidemment plein d'éléments sur la fabrication, bio, les matières premières, etc. Et surtout un accent très fort sur l'aspect local. Et ça inclut aussi la distribution, c'est-à-dire essayer de travailler avec des modes de distribution un petit peu différents, soit de la vente directe, soit des AMAP, soit des petits lieux associatifs, soit des magasins bio indépendants, etc. Enfin, tout ce réseau-là et beaucoup de ventes directes à la brasserie.
Juste question de détail qui n'en est pas un. Un litre de bière de la Montreuilloise comparé à un litre de bière Heineken, par exemple, en prix.
Ah, en prix.
Ouais.
Ah, j'ai eu peur, vous allez poser une autre question.
Non,
en prix, on est deux à trois fois plus cher.
Ouais.
C'est évident. Enfin, je veux dire... mais c'est... Alors, ça dépend où, parce que quand on prend son demi de Heineken en... pour pas les citer, en terrasse à Paris, je pense que le prix qu'on paye est largement bien plus élevé que le prix de ma bière.
Ouais.
Mais c'est vrai que évidemment, on n'est pas sur les volumes de production qui sont les mêmes, donc les coûts de fabrication sont pas les mêmes, mais le produit est pas le même et le rapport au produit est pas tout à fait le même. On peut le comparer avec plein d'autres éléments. Je veux dire, entre un vin de table et un bon vin, c'est pas tout à fait ni le même prix ni les mêmes consommations. Je crois que c'est à peu près pareil pour la bière.
Je vous voyais faire la moue sur le thème. C'est forcément beaucoup plus cher, Elisabeth Pierre. Pas forcément.
Pas forcément. C'est un petit peu peut-être le cas. C'est le cas effectivement en bouteille. Mais si on ramène par exemple le prix à la pression, et ça m'amène d'ailleurs à préciser sur le côté distribution, oui. Il y a des nouveaux lieux de bière qui apparaissent, oui. Qui se créent et qui ont d'autres, on va dire, formes de fonctionnement, hein, et où ce sont souvent des passionnés de bière qui font eux-mêmes le choix de leur bière qu'ils veulent mettre au fût. Et là, en termes de tarification, on arrive à des demi, à des verres équivalents à un demi de bière locale et comparé à un demi de bière internationale, ouais. Quasiment le même prix, voire moins cher. Donc tout, ça dépend des lieux, ça dépend des formules de distribution, bien sûr. Ouais. Mais dans ces nouveaux lieux de bière, par exemple, les prix aussi diffèrent en fonction des types de bière. On va avoir des bières plus par exemple les bières permanentes des brasseurs vont être peut-être à un prix plus bas.
Ouais.
Et des bières plus ponctuelles, des séries limitées, des bières un peu plus exceptionnelles, voire des bières élevées en barrique, des bières millésimées vont être évidemment beaucoup, beaucoup plus chères.
Alors, Julien nous demande ce que ça représente comme investissement d'ouvrir une brasserie. On va poser la question à Jérôme Martinez, mais peut-être à Sam aussi, qui nous appelle de Langon. Bonjour, Sam. Oh là là, la liaison est compliquée. Bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous au bout du fil ou pas?
Oui. Ah, oui, voilà. Je vous entends.
Alors, vous étiez brasseur amateur, vous êtes devenu brasseur pro. Ça représente quoi comme investissement?
Bah, écoutez, c'est en termes d'investissement, moi, je suis parti sur beaucoup de système D et du matériel d'occasion, des tanks à lait que j'ai recyclé. Après, on va dire qu'avec 10 000 euros, on va dire, on peut commencer à travailler un petit peu. C'est des cuves en inox, des cuves de fermentation, où là on est obligé un petit peu de faire dans la qualité. Et autrement, l'installation, c'est oui, encore une fois, pas mal de système D, de la bricole. C'est le côté intéressant aussi de la mise en œuvre de la microbrasserie, c'est le côté bricole aussi, moi qui
vous m'a... ce que je lis sur ma fiche, c'est qu'au fond vous êtes passé pro, mais vous avez gardé une autre activité et vous en avez besoin.
Oui, avant tout je fabrique des meubles en aluminium avec des pièces d'avion. Donc ça, c'est mon activité principale depuis une dizaine d'années. Et j'étais donc brasseur amateur dans ma cuisine, je faisais des brassins de 20 litres. Et puis petit à petit, j'ai acheté justement du matériel de plus en plus gros. Et puis j'ai passé le cap de passer pro depuis 6 mois.
Bon, mais et pour l'instant, il faut
une activité complémentaire.
Voilà, il faut l'activité. Merci de nous avoir appelé. 10 000 euros, je vous ai vu soulever un sourcil, Jérôme Martinez. C'est plus que ça
J'aurais bien aimé n'avoir à mettre que 10 000 euros pour démarrer mon activité. Alors, je pense que ça dépend un peu du choix. Hein. Ça dépend de la taille, ça dépend de ce qu'on a envie de faire dans la brasserie. Effectivement, il y a beaucoup de brasseries. Et moi, le premier, on commence souvent avec du système D, du matériel qu'on récupère, tank à lait, fermenteur de vin, etc. On bricole un système et ça fait des bonnes bières. Après, effectivement, passer un certain niveau, une certaine production, on est obligé de passer sur du matériel beaucoup plus adapté à la brasserie. Et là, il faut rajouter quelques zéros derrière.
Elisabeth Pierre, c'est pas parce qu'on est indépendant artisanal local qu'on est forcément bon, petit 1. Et petit 2, il peut y avoir aussi des arnaques. Comment on s'y retrouve? Il y a des labels, il y a des... comment on s'y retrouve dans ce paysage qui est de plus en plus fourni?
C'est une vaste question.
Oui.
Parce que sur les étiquettes, on a des contraintes qui sont en France relativement faibles. Du coup, pour connaître sur une étiquette le style de bière auquel on a affaire, le goût qu'elle a, là où elle est brassée, par qui, on n'a pas forcément toujours ces éléments qui sont quand même des éléments absolument majeurs. La bière qu'on est en train de boire, qu'on a achetée, où est-ce qu'elle est fabriquée? Et comme les mentions obligatoires ne sont pas forcément celles du producteur, oui. Ça peut être le distributeur, ça peut être l'importateur, ça peut être le commercialiseur. Bref, on peut trouver donc du coup des bières qui sont des bières qui ne sont pas faites par un brasseur
local
ouais. et indiqué sur l'étiquette. Et pour des bières notamment où on indique que c'est une bière locale. Donc il y a beaucoup de tromperies consommateurs, il y a beaucoup de difficultés quelquefois pour le public à reconnaître vraiment une bière qui vient de tel endroit et qui est réellement faite par un producteur avec ses propres recettes. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'entendent un peu un filon, on va dire une mode, s'installent comme commerce comme société commerciale et se présentent comme brasseurs. Et c'est tout à fait faux. Ils font faire leur bière par d'autres brasseurs.
Alors, il n'y a pas beaucoup encore voilà, d'instruments. Il y a votre guide Achète des bières hein, qui voilà. permet de faire un tri,
voilà,
par exemple.
Tout à fait.
Bar McCoy, on va retourner en reportage avec vous. Chez Jérôme Martinez, à la Montreuilloise, le côté ouverture au public, c'est de ça qu'on va parler. Ça ressemble à quoi d'abord les lieux? On ne les a pas décrits encore.
Pour venir à la Montreuilloise, il faut connaître le chemin. D'abord, la brasserie se trouve entre une bretelle de la 86, des pavillons de banlieue, des murs à pêche qu'on trouve à Montreuil. Et il y a même une cité, pas très loin. Elle est située sur une ancienne blanchisserie construite à la fin du 19e siècle. Avec quelques surprises, derrière la brasserie, on peut apercevoir plusieurs lianes de houblon qui grimpent sur le bâtiment en briques. Et donc, toujours dans un souci d'échange avec les consommateurs, les brasseurs de la Montreuilloise reçoivent une vingtaine de stagiaires tous les samedis, matin et après-midi. Tous sont amateurs, ils sont venus participer à ces ateliers entre amis ou en famille pour apprendre à brasser. Et la liste d'attente est longue. Pour s'inscrire, il faut réserver plusieurs mois à l'avance.
Alors on assiste à un stage.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà brassé de la bière? Non. Est-ce qu'il y en a pour lesquels c'est un projet
professionnel?
Non, pas forcément. Mais d'en faire chez vous? Non, ça ne vous est pas venu à l'esprit pour l'instant? Ouais, si. Alors, tu peux passer par l'équipe foireuse pour commencer, mais il y a mieux que ça. On va essayer de vous montrer ça. Donc, le but de la matinée, ça va être, un, de faire de la bonne bière pour vous, et deux, peut-être vous donner, mettre la puce à l'oreille qu'en sortant de là, oui, c'est possible de faire de la bière. D'accord? On fera un peu de chimie hein, la matinée. C'est de la chimie tranquille, hein, mais c'est quand même... Voilà, pour que vous compreniez comment on fabrique de la bière, faut que vous ayez un petit peu ces petites notions de chimie naturelle. Ces premières explications étant données, on va se lancer, on va mettre l'eau, ensuite je viendrai mélanger tout ça et après on aura un peu plus de temps pour rentrer dans le détail. C'est bon.
Vous allez pouvoir glisser un peu. Le principe c'est que le mélange, enfin qu'il y a un mélange homogène qui n'est plus de partie sèche. Donc pour vraiment y aller, il faut tout mélanger. Il y a un truc à éviter, c'est de fouetter ça comme une pâte à crêpes. Parce que là, le risque, en fait, c'est qu'on amalgame tout dans une belle pâte à pain, d'accord? Et c'est pas le stage pain ce matin, c'est la bière. Donc voilà, il faut mélanger tout ça, mais il faut pas non plus s'exciter trop.
Je brasse. Je brasse. Je touille. Le malt et l'eau, c'est même très marrant.
J'ai l'impression que vous y mettez de la force.
Oui, c'est un peu pâteux quand même.
N'emballe pas trop, mélange bien, mais ne prend pas trop de vitesse. C'est justement ce qu'il faut éviter.
Ah, bon, alors voilà, on va faire doucement. C'est la potion magique. Faire la cervoise. C'est une odeur que je connais. Ça me fait penser à la campagne. Moi. L'odeur de, ouais, des céréales, là, quand on est dans les fermes, des agriculteurs qui ramènent le blé, tout ça. Ça y a un peu cette odeur-là qui traîne toujours dans l'environnement. Donc, c'est vraiment des odeurs que je connais, j'avais de la famille agriculteur. Mais ils faisaient pas de bière.
Aujourd'hui, vous vivez où?
Au coin de la rue, là-bas, la rue en face. En lisant les journaux locaux, on a vu qu'il y avait la brasserie qui s'installait. Et puis je suis venu déjà visiter une fois, je suis venu acheter de la bière aussi, déjà. Et puis, c'est ma compagne pour la fête des pères qui m'a offert ce stage.
Ça a l'air pas mal, tu peux t'arrêter.
Je peux m'arrêter?
Ouais, ouais.
Ouais.
On va laisser les enzymes bosser pendant un petit moment.
Allez, tac. Ça, on couvre.
Ben, on a mélangé le moule, hein. Donc on a passé les 15 litres dans un petit récipient et puis on les a fait sortir par en bas et on les a remis par en haut. Je crois qu'on a respecté ce qu'on nous a demandé de faire.
C'est quoi votre bière, vous?
C'est l'Imperial IPA. C'est une bière donc Indian Pale Ale. Je sais pas, je me demande si je vais pas en faire un chez moi maintenant. Parce que finalement, ça a pas l'air très compliqué. Ici, on nous apprend tout, comment le faire, même chez soi. Donc c'est vrai que ça peut être marrant. Voilà, faut avoir un peu de place, mais c'est largement faisable dans un garage. Ouais, je me vois pas avec mes bidons dans la salle de bain. J'ai 40 mètres carrés. Bon. Au prix du mètre carré à Paris... Il faudrait au moins 3 mètres carrés pour avoir tout ça, donc c'est pas possible.
Ils vous la font goûter après, tous ces stagiaires, la bière qu'ils produisent? Moi j'ai peur que ce soit de la soupe un peu leur bière.
Vu... Ah non, on les goûte toutes. Alors évidemment après ça dépend ce qu'en font les uns et les autres, mais on a très souvent des très bonnes surprises. Nous ça nous donne beaucoup d'inspiration même des fois pour nos bières, parce que Bah, des fois, les gens arrivent avec des recettes à eux, une envie de tester des choses, rajouter des épices, des choses auxquelles ils ont pensé, ouais, etc. Et du coup, des fois, c'est des très très bonnes surprises.
Bière artisanale sans alcool, il y en a beaucoup. Il y a une question qui nous parvient sur ce thème.
Je n'en connais pas.
Elisabeth Pierre,
très peu alcoolisée.
Il y en a une en Franche-Comté. C'est la Sans Souci, la brasserie Rouget de Lille, qui fait une bière sans alcool qui est à l'aveugle aussi bonne qu'une bière avec alcool.
D'accord.
Il n'y en a pas énormément en France. On en trouve énormément, beaucoup plus en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis, en Amérique du Nord, au Québec, bien sûr, il y en a beaucoup. Donc c'est un type de bière qui peut tout à fait être amené à se développer par les brasseries locales.
Alors, parmi les messages qui nous parviennent, ce sera ma dernière question, Elisabeth Pierre. Attention à ne pas présenter la microbrasserie comme un Eldorado, c'est un sacerdoce, il faut être passionné pour faire du bon. Pas mal de brasseurs ont du mal financièrement. Et cette question, il y a beaucoup de brasseries artisanales aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde?
C'est vrai que c'est pas facile. Je suis la première à vivre au quotidien ce genre de vie de terrain et ses contraintes et ses difficultés, et notamment les difficultés en termes de distribution. Je pense qu'il y a un énorme potentiel. Ouais. C'est pas forcément effectivement
4500 emplois créés, 60 000 indirectement.
Voilà, c'est-à-dire qu'en emploi, ce sont des emplois locaux, non délocalisables. Ce sont des emplois locaux, des économies locales qui se développent, et les brasseurs participent à ce renouveau de l'économie locale. Ça, c'est très important. Je pense qu'il y a un énorme potentiel puisque nous sommes à peu près que 900 brasseries, nous sommes à peu près à l'équivalent de 4%. Donc, quand on voit dans les progressions des part de marché des brasseries locales dans les autres pays, on parlait de 15% aux États-Unis, on a à peu près à 9% au Québec, donc on a un énorme potentiel, et il y a tellement de vignerons en France, pourquoi pas autant de brasseurs.
Il y a encore de la place.
Bien sûr.
Merci à tous les deux d'être venus ce matin au micro de France Inter. Merci. Le guide achète des bières, Elisabeth, c'est de votre part, et biérographie aussi aux éditions Hachette, avec tous ces graphismes qui permettent de comprendre, notamment aux gens qui n'y connaissent pas grand chose comme moi. Et je voulais vous soumettre cette pensée du jour qui nous est envoyée par un auditeur. À l'âge de la pierre, les hommes vivaient dans des cavernes. À l'âge de la bière, les hommes vivent dans des tavernes. Et on peut donc aller à la taverne La Montreuilloise, près de Paris. 10h49, Hervé Pochon arrive tout près de chez vous. Dany sur France Inter, étoiles et revers. Il est 10h50.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour Hervé Pochon.
Bonjour Bruno, bonjour à tous. Alors pour faire le lien avec votre émission, Bruno, bah il est facile, puisqu'il y a beaucoup de brasseries qui sont installé sous forme de SCOP, par exemple. Là, moi, je suis actuellement à 7 pour le congrès annuel des SCOP, et il y a la brasserie des Garrigues. Bon, mais là, on va pas parler bière, vous en avez parlé pendant presque une heure. On va s'intéresser, toujours avec Simon, au phénomène des SCOP.
On participe à beaucoup de réseaux d'entreprise, et d'avoir des philosophies comme ça, bien partagées, communes, et on ne retrouve pas ça ailleurs.
Ceci étant, par rapport à la coopération, on a vu dans l'histoire passée, à l'Assemblée nationale par exemple, quand il y avait des attaques sur certains principes coopératifs, le clivage n'est pas gauche-droite. Le clivage, il est participation ou pas participation.
Ouais. Et en fait, quand vous parlez de participation, c'est le principe de la SCOP. C'est tout le monde participe.
La capacité de chacun là où il est, en respectant sa fonction, son poste hiérarchique, son mandat. Ça ne veut pas dire que tout le monde, ce n'est pas l'autogestion strictement égalitaire, mais c'est la capacité qu'on donne à chacun de pouvoir s'exprimer. Et de pouvoir être entendu. Voilà.
C'est ça le plus important.
Mais là, dans cette réunion de SCOP, et SCOP, c'est Société Coopérative de Production, il n'y a que des dirigeants, il n'y a pas un salarié
non.
de base.
Non, il y a des salariés. Moi, il y a des salariés. Je suis gérant d'une autre SIC aussi, et il y a des salariés. Je peux trouver un salarié. Allez.
Je vous suis. Bienvenue à 7 pour le congrès régional des SCOP. Et des SIC,
Société Coopérative d'Intérêt Collectif.
Des deux régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
Voilà.
Bonjour Lauriane.
Lauriane Adin, qui est une merveilleuse responsable administrative d'un bureau d'études qui s'appelle Orchis.
Donc vous n'êtes pas une dirigeante ?
Non, je suis assistante de direction.
Ça a été un vrai choix de votre part de rentrer, de travailler dans une SIC ?
À la base, non, c'était pas un choix de ma part, mais lorsque j'ai découvert cette entreprise, c'est vrai que c'est un milieu qui m'a beaucoup intéressée. Et du coup, je m'y suis accrochée et maintenant, je ne me vois pas partir.
Vous ne voyez pas travailler dans une entreprise classique, entre guillemets, comme
non.
on dit ?
Non, pas pour l'instant.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites aujourd'hui ?
Le fait que chacun a son mot à dire au sein de l'entreprise. On a vraiment l'impression qu'on compte et d'être un. Pas unique, mais oui, presque, d'avoir vraiment sa place au sein d'une équipe.
Ça veut dire que vous participez au conseil d'administration ? Ça veut dire que vous avez des parts dans la société ?
Alors, on n'a pas de conseil d'administration, je n'ai pas encore de part dans la société, mais c'est en devenir, c'est possible. Et même au quotidien, au sein de l'équipe, on sent vraiment que chacun a sa place et la vie de chacun compte, en tout cas. Voilà.
D'ici combien de temps vous pourrez avoir une part dans la société ?
Je pense cette année.
Et ça coûte combien d'avoir une part ?
Une part sociale coûte 500 euros.
Et on peut en avoir plusieurs ?
Oui. Mais il faut savoir quand même qu'on aura toujours une voix à l'Assemblée Générale et pas plusieurs, parce qu'on ne compte pas plus...
Ah oui, c'est ça. On peut avoir 1000 parts, on n'a qu'une voix.
C'est ça, c'est exactement ça.
Et vous avez déjà assisté à des Assemblées Générales ou avec les...
Non, pas encore. Donc je suis assez jeune dans l'entreprise, ça fait même pas un an que je suis là-bas. Donc je n'ai pas encore assisté à une Assemblée Générale, mais la semaine prochaine, ce sera fait. On aura l'Assemblée Générale de notre coopérative mardi.
Et alors, elle fait quoi, votre coopérative ?
C'est un bureau d'études axé sur l'environnement et l'énergie. Donc on fait des études de faisabilité sur notamment l'hydroélectricité, la gestion de l'eau dans les milieux urbains.
Et pourquoi vous tapez dans les mains, madame ?
Pour dire que c'est fini la récréation.
Et qu'est-ce qu'on fait maintenant alors ?
Ah ben là, on va aller écouter, voir, écouter les SCOP, écouter les élus qui nous ont fait l'honneur de venir nous voir. Voilà, on va se concentrer sur l'essentiel.
Bon, elle a dit qu'il fallait aller se concentrer sur l'essentiel, comme si nous, on était dans le superficiel. Elle n'écoute pas nos conversations et j'ai pas eu le temps de lui dire. En tout cas, je vous remercie. Lauriane. Vous faites bien.
Bah oui.
Vous faites la chèvre ici ?
Bah, je viens en Ariège, donc voilà, je fais pas mal le mouton.
Avec les animaux en permanence.
Voilà.
Vous faites quoi avec les animaux ?
On a Symbiosphère, on fabrique des refuges pour la biodiversité. Donc tout ce qui est nicheur à oiseaux, refuge gîte à insectes, refuge à chauves-souris, hérissons, on peut héberger beaucoup de choses, notamment en ville. Et le souci en ville, c'est le manque d'habitat pour ces bestioles-là. Alors, en général, elles ont à manger, il y a des fleurs, donc il y a des insectes, donc on peut avoir des oiseaux, on peut avoir des chauves-souris, mais c'est l'habitat qui manque. Donc nous, on a pour vocation de réinvestir l'espace urbain avec des habitats favorables pour des espèces qui sont communes chez nous. Voilà, pas sauver l'ours polaire, mais sauver les espèces qui sont chez nous. Quoi.
C'est pratique que vous avez un badge, je peux dire, vous appelez Leslie. Et alors vous êtes dans une SCOP ?
C'est ça, on est une SCOP de 3 salariés, 3 associés, et on a vraiment monté le projet ensemble. Donc là, les SCOP prennent vraiment tout leur intérêt. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de leader dans le projet. On est parti de nos compétences, de nos envies, donc 2 écologues et un menuisier. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Comment on le fait ? Comment on s'associe ? Et la SCOP est venue de manière naturelle, du coup.
Vous, je me doute que vous n'êtes pas menuisier ?
Non. Moi, je suis, mon collègue Yann, le portable, est ingénieur en environnement. Je suis docteur en écologie. Le troisième est menuisier.
Mais en fait, on devient menuisier, hein, parce que nous deux, à la base, on travaillait derrière un ordinateur. Mais en fait, on fabrique des nichoirs toute la journée et on se forme sur le tas.
Donc, il y a un moment où vous travaillez le bois et vraiment
Vraiment. On travaille le bois à peu près 3 jours par semaine, intense, quoi.
C'est chacun une part ou quoi ? Oui,
on est tous à égalité, un homme, une voix. On a mis les mêmes argent au départ, le même capital social. Donc,
Pierrot, voilà. Mon frère, a mis en machine et nous, on a mis en argent.
C'était combien ?
7000 euros chacun. Ça suffisait pour faire un atelier de menuiserie.
Et aujourd'hui, votre attente, vos besoins, Quels sont-ils ?
Bah de coopérer, hein, c'est pas pour rien qu'on est là. Hein. Faut voir que, pour donner un exemple, on fait quand même, je pense, une bonne dizaine de pourcents de nos chiffres d'affaires rien qu'avec d'autres scopes. Donc, prenez un peu, oui, voilà. C'est le réseau pour nous est vraiment très très actif, très utile, quoi. Donc,
vous cherchez des gens qui vont acheter vos nichoirs,
On va lancer un nouveau projet et on est à la recherche de collectivités ou de propriétaires fonciers qui mettraient à disposition des espaces pour qu'on place des nichoirs gratuitement dans leur espace. En fait, c'est un projet qui va s'appeler Faucon se bouge. Faucon comme le faucon. Faucon, ça va être notre emblème de projet. Et en fait, l'objectif, c'est de faire du financement participatif à l'intérieur d'une ville. Et l'avantage, c'est que ça va être du nichoir connecté. Donc on pourra savoir avec une application smartphone si le nichoir est occupé en temps réel ou pas. Et les gens pourront regarder, voir ce qui sort, ce qui rentre, et apprendre du coup, par l'intermédiaire de cette application, quels oiseaux sont en train de rentrer dans le nichoir.
Ça vaut combien un nichoir que vous fabriquez ?
Ça vaut 39 euros. Et c'est du bois local qui vient du Tarn, des forêts qui sont gérées durablement.
Bon, si on veut en savoir plus, Yann, eh ben on tape symbiosphère.fr.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Ce que Yann n'a pas eu le temps de dire, c'est que son nichoir il vaut 39 euros et que, par contre, il y a des nichoirs qui viennent de Chine qui coûtent 2 euros. Donc la difficulté, elle est là, mais ça, c'est toujours le même problème, n'est-ce pas ?
Suite du feuilleton demain, Hervé Pochon.